Agnès Varda, vue par la classe de 3e du collège Lanadière à Port-la-Nouvelle.
Embarquement immédiat.
Si je vous dis glace au chocolat vanille ou même religieuse au chocolat auréolé de chantilly, ça vous fait penser à quoi?
Des desserts?
Pas du tout, on parle d'une personne.
Une coiffure de moine?
Toujours pas.
Moi j'ai une petite idée. Ne serait-ce pas la coupe de cheveux d'Agnès Varda?
C'est ça.
Et quel rapport avec une glace vanille chocolat?
Bicolore, blanc aux racines et brune au-dessous.
On comprend mieux.
Quelle idée d'avoir une telle coupe de cheveux?
Figure-toi qu'à 19 ans, elle a mis un bol sur sa tête et a dit:
coupé. C'est pas à la mode, mais c'est pratique de garder la même coupe.
Et la couleur vanille chocolat est venue aux premiers cheveux blancs.
Dans les années 90, tombant sur un portrait d'homme du 16e siècle, elle a eu envie de cette coloration originale. Elle y voyait un esprit d'indépendance.
Je n'ai pas lutté pour être belle, rester jeune, faire mieux que les autres. J'ai essayé de faire ce que j'avais à faire, mais qui me le dictait? Je ne sais pas.
Pourtant, elle était âgée quand elle est décédée. Elle est née en quelle année?
Dans les années 50.
Faux, bien avant.
À la fin des années 20.
Bravo.
Et où?
À Ixelles, en Belgique.
Puis, en 1940, à cause de la guerre, sa famille se réfugie à Sète. Ils vivent sur un bateau amarré à quai. C'est original, non?
Elle s'est mariée?
Oui, avec Jacques Demy, le réalisateur des fameuses Demoiselles de Rochefort. Elle lui a consacré un film, Jaco de Nantes.
Et un documentaire, L'univers de Jacques Demy.
Elle filme ce qui l'entoure, sa famille, ses voisins, les animaux, les objets, les paysages.
Je ne veux pas me montrer, mais donner l'envie de voir.
Agnès Varda a eu trois vies.
Trois vies?
Oui, sa vie de photographe, sa vie de cinéaste et sa vie d'artiste plasticienne.
Dans la première, de 1948 à 1960, elle est photographe pour le Festival d'Avignon et le Théâtre National Populaire de Jean Villard.
Dans la deuxième, elle est cinéaste. Elle réalise son premier long métrage, La Pointe Courte, en 1954 avec deux jeunes comédiens et pas des moindres, Philippe Noiret et Sylvia Montfort.
Et voilà que surgit sa troisième vie, il y a une quinzaine d'années.
Moins plasticienne qu'artiste visuelle.
Comme elle préfère le dire.
Revenons à la première vie, celle de photographe.
Elle aime prendre des clichés au hasard de ses promenades.
Des photos noires et blancs très peace and love.
Clichés de voyage.
Clichés d'objets abandonnés dans les rues.
Clichés d'enfants en Chine.
À Cuba, elle est fascinée par l'énergie qui règne à la Havane entre le socialisme et les cha-cha-cha.
Dès sa première exposition, on peut voir une pomme de terre germée en forme de cœur, qui devient dès 1953 un symbole d'amour.
Pour résumer, elle aime
capter quelque chose.
Ses sujets photographiques sont très différents, ce qui confirme sa curiosité universelle.
Et l'organisation des images l'amène au cinéma.
Après La Pointe Courte, vont suivre des courts et longs métrages, dont le célèbre Cléo de 5 à 7, mais aussi Sans toi ni loi ou Jeanne B par Agnès Varda.
Tu sais, les plus connus, elle a tourné aussi des documentaires.
Comme Les Glaneurs et les Glaneuses en 2000.
Elle travaille comme un peintre sur la matière, l'être humain.
D'ailleurs, certaines critiques disent que l'ensemble de ses films pourrait prendre le titre de celui qu'elle a réalisé en 1982. Documentaire.
Ses travaux ont été primés dans les festivals les plus prestigieux. Une palme d'honneur et un Oscar pour l'ensemble de son œuvre.
C'est fou.
À 75 ans, multi-récompensée pour son travail de cinéaste, elle change de vie. Elle devient plasticienne.
Elle fabrique du plastique?
Mais non, elle modèle l'espace par des installations.
Elle a réalisé un bateau à partir des bobines de films Super 8 du tournage de La Pointe Courte.
Ces trois vies se croisent et s'entrecroisent comme un tissage.
Créer, c'est partager. Et cela suffit à mon bonheur.
Vous connaissez Dame Patate?
C'est quoi ce nom bizarre? C'est la femme de Monsieur Patate?
Tu dis des bêtises, on parle d'Agnès Varda, c'est son surnom.
Ah oui, c'est vrai, c'est quand elle a fait son film sur les glaneurs.
Glaneur? Vous voulez dire gladiateur plutôt?
Mais non, glaneur.
Oui, ceux qui récupèrent les restes du marché dans les cagettes près des poubelles.
D'autres grappillent dans les champs après la récolte.
Elle a voulu répondre à la question.
En ces temps de surconsommation, qui mange ce que nous jetons?
Les glaneurs.
Elle filme ceux qui par nécessité ou par choix ramassent les restes. Elles ont aussi sur gaspillage alimentaire.
Des glaneurs des temps modernes, à la ville ou à la campagne.
C'est quoi le rapport avec une dame patate?
Dans le documentaire, elle filme une montagne de pommes de terre jetées, parce que non conformes.
De ce tas, elle a ramené une patate en forme de cœur.
Ah ouais, d'accord, elle est tombée amoureuse d'un tubercule.
C'est une vraie écolo.
Si tu veux, dans un de ses films, elle parle de patanologue.
C'est quoi ce terme de dingue?
Quelqu'un sait ce que ça signifie?
Pas vraiment, un rapport avec les plantes, non?
Dans le film Sans toi ni loi, Macha Meryl joue le rôle de Madame Landier, platanologue, spécialiste des arbres et des plantes. À partir de là, on a offert à Agnès Varda des patates en forme de cœur.
Pourquoi faire?
Une collection?
Elle observait leur évolution, le passage du temps sur la patate.
Ah, ce surnom vient de là.
C'était une de ses œuvres en tant que plasticienne sur triple écran.
Tu te souviens de son titre?
Patate Tutopia, je crois.
Comment tu sais?
Je peux parfois briller.
J'ai photographié des stars parmi les patates, les plus belles patates ratatinées du monde. En glanant, on tombe sur le cœur.
Revenons au cinéma d'Agnès Varda. Grâce à son premier long métrage, La Pointe Courte en 1955, elle est l'initiatrice de la nouvelle vague.
Waouh! Et de nombreuses récompenses ont suivi.
Un César du meilleur court métrage pour Ulysse en 1984, puis le César du meilleur documentaire pour Les plages d'Agnès en 2009.
Une palme d'honneur du Festival de Cannes en 2015 pour l'ensemble de son œuvre, elle avait reçu comme prix de résistance et d'endurance.
Un Oscar d'honneur en 2017, la plus grande récompense du cinéma américain pour l'ensemble de son œuvre.
Oscar remis par l'actrice américaine Angelina Jolie.
Wow, elle est même connue aux États-Unis.
Ses documentaires sont complètement différents les uns des autres.
Court et long. Sur les châteaux de la Loire.
Sur la révolution de Fidel Castro à Cuba.
Sur les Black Panthers.
Sur les peintures murales à Los Angeles.
Château, révolution, mouvement politique, art. C'est dingue, quelle personne éclectique.
Quoi d'autre?
Elle a aussi réalisé des fictions plutôt insolites.
Un film d'anticipation, Les Créatures, avec Michel Piccoli et Catherine Deneuve.
Un film sur les mouvements féministes, l'une chante, l'autre pas.
Mon corps est à moi, mon corps est à moi, mon corps est à moi, mon corps est à moi.
Oh, bravo! Mais encore!
Elle a dégoté de jeunes talents comme Philippe Noiret, Sylvia Montfort, Sandrine Bonner, Yolande Moreau et même Gérard Depardieu dans un film qui n'a pas vu le jour.
Lol!
Mais aussi l'acteur qui joue dans Indiana Jones.
Harrison Ford! Mais elle a surtout filmé des anonymes.
Des ouvrières dans des usines de jouets.
Des passants parisiens dans Cléo de 5 à 7.
Des simples pêcheurs pour documentaires.
Les plus démunis dans les films Sans toi ni loi ou Les glaneurs et la glaneuse.
Quoi encore?
Moi je suis impressionnée par le nombre d'animaux qu'elle a pu filmer.
Un joli bestiaire, une chèvre, une mouette, des lions, un chien, des chats.
Et des moutons qui tournent en rond.
Dans ses films, elle inclut des actualités françaises ou américaines, des photos, des cartes postales, des journaux, des pages de dico, des panneaux publicitaires, des tableaux, des timbres, des extraits d'autres films.
40 ans de carrière cinématographique tout azimut.
Les souvenirs sont comme des bulles qui remontent.
Si je vous dis Joe Burlesque.
L'une avec une drôle de coiffure et l'autre derrière son chapeau et ses lunettes noires.
Agnès Varda et...
Premier indice, ils étaient super potes malgré leur différence d'âge. 55 ans.
Agnès Varda et Jean-René.
Jean-René, c'est qui ce Gugus?
JR, tu connais pas?
Ah, je connaissais pas son prénom.
Avec un prénom pareil, il a bien fait de choisir un pseudo.
C'était pas gagné cette collaboration.
JR a su la convaincre. En 2015, il se lance dans ce projet qui deviendra un film documentaire, Visage Village.
Ok, c'est le road trip à travers la France.
Avec un camion photomaton.
Au hasard, des rencontres. Ils photographient des gens lambda.
Et collent leurs photos géantes sur les murs. Les édifices, les bateaux, les trains.
Le film montre aussi leur échange, ils n'arrêtent pas de se taquiner ces deux-là.
Elle lui demandait de retirer ses lunettes.
Lui, il la traque de son objectif. Il photographie ses yeux, ses mains, ses pieds, ses rides.
Il la taquine sur sa petite taille, son grand âge, son impatience.
Quand on est vieux, il faut profiter.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun?
L'art et la manière de regarder les gens.
De les agrandir.
Que veux-tu dire?
De les mettre en avant sur un piédestal.
Par de très grandes photos, ou en les filmant, en parlant d'eux.
JR ne filme pas.
Non, mais il rajoute des paroles écrites sur certaines de ses photos, comme les vieux de la Havane.
Agnès Varda disait...
La parole va de pair avec l'image.
Leur duo est amusant.
Il dit d'Agnès qu'elle voit flou, qu'elle est une grande enfant.
Il aime à répéter...
Quand je regarde Varda, je voudrais être comme ça quand je serai grand.
Enfant, elle se voyait comme une vieille en noir.
Une femme pas mécontente de vieillir alors.
Elle aimait les traces du temps sur les visages, les cheveux, les mains. Elle immortalisait le temps qui passe.
Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages.
Diriez-vous qu'Agnès Varda était une femme engagée?
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire d'un côté écolo.
D'un autre militante grâce à ses documentaires Black Panthers, Les glaneurs et la glaneuse.
Une autre facette non négligeable, montrer les démunis, les invisibles, mettre en avant les anonymes.
En résumé, elle a capté la société dans laquelle elle vivait.
Et féministe qui plus est.
Bah si, quand même. Elle ne l'a jamais caché, elle s'implique pour cette cause en la mettant en scène.
Elle a même signé le manifeste des 343.
343, quoi?
C'est un appel dans le Nouvel Obs qui a rassemblé 343 signatures. 343 françaises qui ont eu le courage de dire haut et fort « Je me suis fait avorter ».
343 femmes extrêmement courageuses.
En effet, elles s'exposaient à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
Mais pourquoi?
Parce que l'avortement en France était illégal.
C'est un appel pour la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, bien avant la loi Veil.
4 ans avant.
Ah oui, quand même.
En 1975, elle réalise une comédie musicale pour l'émancipation des femmes.
Ah yes, les années 70, baba cool, hippie.
Voici le synopsis. Pauline, étudiante, rencontre Suzanne. Cette dernière est de nouveau enceinte alors qu'elle a déjà du mal à assumer financièrement ses deux enfants.
Pour l'aider à avorter, Pauline obtient de l'argent de ses parents sur un mensonge. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, elle décide de les quitter et se lance dans la chanson.
Plus tard, on la retrouve en train de chanter pour les droits des femmes devant le tribunal.
Mon corps est à moi, mon corps est à moi, mon corps est à moi, Mon corps est à moi.
Les chansons ponctuent les étapes de la vie de Pauline.
À la fin du film, une voix off dit qu'elles ont toutes les deux lutté pour aider et servir d'exemple aux générations suivantes.
J'essayais de vivre un féminisme joyeux, mais j'étais très en colère.
En 7 points, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Agnès Varda?
65 ans de carrière.
Une femme caméléon, tour à tour photographe, cinéaste, plasticienne.
Des engagements affirmés dans ses reportages et ses fictions.
Une réinvention de tous les jours, hors des modes et des sentiers battus.
30 films, courts et longs, récompensés à de multiples reprises.
Des amitiés et des amours indéfectibles, avec son mari Jacques Demy, avec Jean-Luc Godard, Harrison Ford, Michel Legrand, Alain René, Sandrine Bonner, Catherine Deneuve.
Des images plus insolites les unes que les autres, décalées et hors du temps.
Pourtant, Agnès Varda nous a quittés en 2019, laissant une œuvre protéiforme qui nous parle du temps qui passe.
Ah oui, sa patate en forme de cœur qui germe.
Ou son mari sur la plage de Noirmoutier, des images qui marquent pour l'éternité.
Je suis une vieille cinéaste, une jeune plasticienne et une photographe curieuse.
Elle est libre, Agnès. Elle est libre, Agnès. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
C'était Agnès Varda, vue par la classe de 3e Varda du collège Anadjer à Port-la-Nouvelle.
Est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, parler te faire en où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Balance ton quoi.
Sebastião Salgado, vu par la classe de 3e du collège Lanadière, à Port-la-Nouvelle.
Embarquement immédiat!
Bonjour tout le monde. Avec l'arrivée du froid, nous allons vous apporter un peu de soleil aujourd'hui, en parlant d'une célèbre figure brésilienne, le fameux photographe. Eh oui, Sebastião Salgado. Commençons par le tout début de sa vie.
Quand et où est-il né?
Sebastião Salgado est né le 8 février 1944 à Imores, dans la région sud-est du Brésil.
Peut-on en savoir plus sur son enfance?
Ses parents avaient une ferme d'élevage bovin située au milieu de la forêt tropicale. Il a donc grandi en pleine nature, entouré d'animaux. Chaque année, ils emmenaient les bêtes à l'abattoir, en ville, et chevauchaient pendant 45 jours avec les vachers, puis ils mettaient 20 jours pour rentrer.
Eh bien, quelle vie, ça c'est de l'éducation. Avait-il des frères et sœurs?
7 sœurs, mais pas de frères.
Malgré ses origines modestes, comment Sébastien est-il arrivé à devenir un photographe aussi connu?
Au départ, il ne se destinait pas du tout à la photographie. À l'âge de 15 ans, il part en ville, à l'université de Sao Paulo, pour faire des études d'économie. Et là, voyant son pays basculer dans un développement industriel outrancier, il s'implique dans des mouvements de gauche.
Ah bon? Il faisait déjà dans l'humanitaire? Son engagement ne lui a-t-il pas valu quelques problèmes par la suite?
Si, bien sûr. Après le coup d'État par les militaires en 1964, la situation devient de plus en plus inquiétante. Ce qui le pousse, avec son épouse, Leila Vanik Salgado, à quitter le pays.
Premier saut dans le vide.
Dis donc, quel courage.
Et où va-t-il?
Le couple choisit le pays des droits de l'homme. C'est où d'après vous?
En France, à Paris.
Bravo, ils y posent leur valise en août 1969.
Quel âge a-t-il à ce moment-là?
Il a 25 ans.
Et où travaille-t-il? À Paris.
Il poursuit ses études, tandis que Leila entreprend des études d'architecture. Et là, il achète un appareil photo.
Ah, on brûle.
Sébastien O prend sa première photo. C'est Leila qui regarde par la fenêtre.
On peut dire qu'il a eu le déclic.
Revenant au parcours incroyable de cet homme, je me pose juste une question. Comment ses parents paysans ont-ils pu financer ses études?
Par des bourses, tout simplement. Et puis, c'est un élève brillant. Entre 1964 et 1967, il poursuit des études de sciences économiques au Brésil et obtient une maîtrise à l'université de Sao Paulo.
Et une fois arrivé à Paris, a-t-il continué dans sa voie?
Rien ne l'arrête, cet homme. Figure-toi qu'il suit les cours de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique et prépare un doctorat d'économie agricole à l'université de Paris.
Quelle tranche !
Mais dis-moi, avec tous ces bagages, n'a-t-il pas trouvé de boulot ?
Si, bien sûr. Il a d'abord travaillé comme économiste auprès du ministère des Finances de son pays.
Et en 1971, il devient économiste d'État à Londres. Et là, c'est la belle vie. Il dit lui-même :
ma mission consistait à diversifier l'agriculture en Afrique. J'ai ainsi développé les cultures de thé au Rwanda et de riz au Burundi. J'avais un bel appartement, pas loin de Hyde Park, une belle voiture de sport, de l'argent, une carrière prometteuse, avec la possibilité d'intégrer la Banque mondiale.
Par les propos de Sebastião Salgado, nous allons comprendre son basculement vers la photographie.
Chaque fois que je revenais d'Afrique, je prenais plus de plaisir à regarder mes images qu'à rédiger des rapports. La décision n'a pas été facile. Avec Lélia, nous discutions des heures pour savoir si on lâchait tout pour la photo. Une fois encore, on s'est jeté dans le vide.
Comment a-t-il appris ce nouveau métier ?
Tout seul, par passion.
Ce ne doit pas être évident.
Il a eu du talent et de la chance.
Il fait ses armes auprès d'agences comme Sigma à partir de 1974, puis Gamma en 1975 et pour finir Magnum de 1979 à 1994. Il couvre, entre autres, la guerre en Angola, celle au Sahara espagnol, la révolution des œillets au Portugal.
Il a risqué sa vie.
Oh oui, et à de nombreuses reprises, on se demande comment est-il encore vivant.
Attention, Salgado n'est pas qu'un reporter de guerre. Craignant d'être réduit à ce genre, il se consacre aux sujets qui lui tiennent à cœur.
Et qu'est-ce qui lui tient à cœur ?
Être témoin de la vie de ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Travailleurs, mineurs, paysans ou victimes de la famine ou de la guerre.
Comment s'y prend-il ?
Il prend son temps et photographie au moment opportun, en noir et blanc, nous livrant des portraits crus empreints d'une grande humanité.
Et surtout dignes malgré leur immense détresse. Dans quel pays s'est-il rendu pour ce travail particulier ?
Dans le monde entier, car il choisit des thèmes qui concernent une grande partie de l'humanité comme...
Autre Amérique, 7 ans consacrés au peuple d'Amérique latine.
La main de l'homme, 6 ans qui mènent dans 26 pays de tous les continents.
Exode, 5 ans pour témoigner des populations qui se déplacent pour sauver leur peau ou échapper à la misère.
Avec toutes les dérives que cela implique.
Suite à cet énorme travail sur l'humanité, il tombe en dépression, on peut le comprendre.
Comment résister à autant d'horreurs ?
Il y a une relation incroyable entre la dégradation humaine et la dégradation de l'environnement. Après de nombreuses années de voyages pendant lesquelles j'ai vu le malheur, j'ai commencé à perdre confiance et j'ai cru que l'espèce humaine fonçait droit dans le mur.
Mais la vie fait bien les choses. Au même moment, le couple hérite de la propriété familiale qui est devenue une terre de désolation à force de déforestation et de piétinement par le bétail.
Leïla, sa femme adorée, lui fait une proposition complètement folle.
Et si nous replantons des arbres pour ressusciter le paradis que tu as connu dans ton enfance ?
Pour ce projet ambitieux, il crée Instituto Terra avec des fonds brésiliens, américains et européens et réussissent à faire revivre pas moins de 2,5 millions d'arbres.
Le résultat est là sous nos yeux. Regardez ces deux photographies. Le même endroit en 13 années s'est complètement métamorphosé.
Ah oui, dis donc. Sur la première, c'est le désert et sur la seconde, c'est la forêt luxuriante.
Et de là est né le dernier volet photographique de Salgado.
Je sais, c'est Genesis. Cette fois-ci, Salgado va montrer la beauté des endroits encore préservés.
Il photographie des paysages, des animaux et bien entendu des communautés humaines qui continuent à vivre selon de très vieilles traditions.
J'aimerais que l'on s'émerveille et que l'on comprenne la nécessité de préserver notre belle nature. C'était Sébastien Salgado,
vu par la classe de 3e du collège Lanadière,
à Pour la Nouvelle.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue.
un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par peine. Et on fin do camino, et on reste di toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
Hidro,
Ida,
Ol,
Ponte,
Orte,
Aço.
agosto. Sol, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Padaba, Padmaziza, Zazaziza, Azada Mienha, Anandede, Banandede.
Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like the samba that swings so cool, sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, how I watch him so sadly. Tell him I love him. Oh, but I love him so madly. When he goes for a stroll by the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. Oh, how I watch him so. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. No, he doesn't see. No, 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 no. Say hey, the boy. Say the boy from Ipanema, Ipanema, yes, the boy from Ipanema. No, 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 no,